Hay ocasión oriental. Llegué fui totalmente que
soy. Porque tenéis el compañero que es un garage, un combinado de dos, de mi presidente, trouvé une position par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi pour vous tenir compagnie en cette journée des jeudi 9 septembre 2010. Vous écoutez Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations de tous les jours. Nous nous penchons avec vous sur les codes de la famille de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il s'est tenu ici à Kinshasa la semaine dernière un atelier de réflexion sur les projets de la révision de ces codes de la famille. Plusieurs experts congolais et étrangers se sont penchés sur une centaine d'articles qui doivent faire l'objet de la révision. Et Parole aux auditeurs revient sur cela, mais en ciblant bien sûr un article pour le débat de ce jeudi et d'autres articles pourront être ainsi analysés au cours de nos prochaines émissions. Et les résultats de cet atelier seront transmis à l'Assemblée nationale pour analyse au moment opportun. Les participants se sont penchés et ont pensé qu'il était nécessaire de revoir l'article sur la notion du chef de ménage et nous lierons le débat avec l'autorisation du mari en ce qui concerne le travail de la femme. En effet, dans son article 444, l'actuel code de la famille stipule, je cite, le mari est le chef de ménage. Il doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Et dans le même code de famille, l'article 448 dit ceci, la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne. D'autant parce que, vu le rôle que joue la femme actuellement dans le ménage et vu l'évolution des textes dans la promotion des droits de la femme, il serait mieux de penser à la question collégiale du ménage. Ce sujet vous touche particulièrement. Et que pensez-vous de cette révision? Quelles sont vos priorités sur cette notion? Vos réactions, points de vue et propositions sont le bienvenu dans Parole aux auditeurs. L'émission reçoit dans ce studio le professeur Eddy Manto. Il enseigne les droits. Il est spécialiste du droit de la famille. La production de cette émission est assurée par toute l'équipe Marie-Chantal Lumba, Nicole Nga, qui est à la réalisation et la mise en onde est assurée et par Sylvain Matondo, Piero et la Mégie pour la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Vous êtes très nombreux et vous êtes intéressés par le débat au sujet de cet article hein, sur la notion du chef des ménages. Nous en parlons avec vous. Et aussi, en ce qui concerne l'autorisation que la femme doit avoir pour travailler, les deux articles sont liés, nous allons en parler. Vous pouvez nous appeler au 081-890-6315 pour intervenir, nous donner votre point de vue, eu égard à tout ce que nous allons ensemble partager dans cette émission. Professeur Eddy Manto, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et merci d'être venu au studio des Radio Capi. Vous êtes spécialiste en droit de la famille et vous êtes auteur d'une thèse de doctorat sur l'égalité des époux en droit congolais de la famille, je pense bien, c'est ça. Vous enseignez les droits et tout ce qui touche les époux dans la famille en RDC, c'est ça même l'auteur de votre thèse de doctorat, nous en parlons. Mais avant d'aller plus loin pour parler même des articles, pourriez-vous aider un peu les auditeurs à comprendre c'est quoi le code de la famille?
Voilà, pour répondre à la question et surtout pour permettre une bonne compréhension, je commencerai d'abord par définir ce qu'on attend par droit, avant de comprendre ce qu'on attend par code de la famille. En droit, nous distinguons, nous définissons les droits au sens objectif ou au sens subjectif. Sens subjectif, je commence par le sens subjectif. Le droit, c'est l'ensemble des prérogatives qui sont reconnues à un individu. Et quand je dis que voilà, c'est mon droit, c'est mon stylo, c'est ma maison, c'est les droits que j'ai par rapport à ce stylo, par rapport à cette maison-là. Et de l'autre côté, il y a les droits au sens objectif, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent la vie dans une société. Je donne une définition de façon rapide.
Voilà.
Hein. Et qui régissent la vie dans une société. Mmh. Et dans ce sens, il y a ce qu'on appelle chez nous, dans le jargon juridique, la summa divisio, c'est-à-dire les trois au sens objectif comprend deux compartiments. Il y a d'une part les droits publics et d'autre part les droits privés. Mmh. Alors, le code de la famille se situe dans les droits privés, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre le particulier. Mmh. Et là-dedans, vous trouverez la branche principale du droit privé que le droit civil. C'est-à-dire les droits civils, c'est-à-dire cet ensemble des règles qui régissent la vie entre les particuliers dans une société donnée. Mmh. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a là-dedans aussi plusieurs comportements, notamment les droits de biens, les droits des obligations, les contrats, et les droits de la famille. Les droits de la famille, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent la vie dans la famille. Et le code de la famille maintenant, c'est quoi le code de la famille? C'est tout simplement cet ensemble des règles qui régissent la vie dans la famille. Voilà, c'est pas simplement la fidèle, je donne pas le cours de droit à l'université, on pouvait comprendre à nos auditeurs.
Voilà, c'est que le code permet de réglementer la vie dans la famille. Et si on doit maintenant, d'une manière encore rapide, le sens positif de ces codes, ce que je vais dire, ce sont les conséquences de l'application de ces codes, par exemple, dans une famille, qu'est-ce qu'on attend si on applique les codes de la famille, qu'est-ce qu'on attend? On attend et quelles sont les contraintes négatives dans une famille si on n'applique pas les codes?
Non, en principe, là, c'est ce que nous enseignons à nos étudiants à l'université. En principe, le droit est là pour régler les litiges. Mm-hmm. Vous ne trouverez jamais un ménage ou un couple qui a dans sa maison un ensemble de règles affichées pour dire voilà, le matin, voilà ce que vous devez faire, l'article était, l'article était, ça n'existe pas. Le droit est là, en principe, pour régir le cas, en fait, réglementer, notamment les relations entre individus, en principe, quand il y a un litige. Mm-hmm. Donc, la seule positif, notamment pour prévenir le cas des litiges. La seule négative, c'est une mauvaise application de cette loi. Voilà. On pourrait y revenir tout à l'heure.
Et avant de donner la parole à nos auditeurs, est-ce qu'aujourd'hui, depuis 23 ans, je crois que ce code de la famille a été promulgué, il est nécessaire aujourd'hui qu'on puisse le revoir?
Alors, le code a été promulgué, oui, ça fait presque 23 ans maintenant, ou 23 ans, c'est en 87. Mmh. Il est en train de vivre une année plus tard. Oui. Effectivement, il y a nécessité de revoir ces codes. Nécessité pourquoi? Parce que, je pense que je puis donner deux raisons principales. Mmh. La première, ce code a été élaboré dans un contexte qui se trouve aujourd'hui révolu. N'oubliez pas que ce code est le fruit des travaux de l'ancienne commission de réforme des droits congolais qui a été mise en jour en 71. Et ce code a été inspiré notamment par les droits sénégalais et plus particulièrement par les droits aussi éthiopiens. Et je vous informe que ce droit éthiopien qui a inspiré notre code a été revu en 2000. Donc cette œuvre de René David, ce juriste René David, le code éthiopien, a été revu en 2000. Voilà un peu le code qui nous a inspiré. Lui-même a été revu. Donc d'autre part, il y a l'évolution de la société. Il ne faut pas perdre de vue que notre société a évolué. Le code tire sa source notamment des enquêtes qui ont été menées vers les années 70. Et nous sommes aujourd'hui en 2010. En ces temps, le pays a ratifié un certain nombre de conventions internationales qui nous obligent, j'insiste, nous avons ratifié ces conventions internationales sans réserve, qui nous obligent de nous mettre en phase avec ces instruments internationaux. Voilà un peu grosso modo ces différentes raisons qui motivent notamment la réforme, la révision de ces codes.
Voilà. Et nous reviendrons après pour parler en fait de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, parce qu'on ne va pas parler de tous les articles. Il y a plus de 900, ça sera impossible. Oui. Mais aujourd'hui, on va cibler juste deux matières qui vont nous permettre de réfléchir ensemble avec les auditeurs des Radio Capi, comme Serge qui nous appelle des Boende dans la province de l'Équateur et Irène qui est à Lubumbashi, à qui on va donner la parole tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Serge et Irène, avant que je puisse vous donner la parole, je voudrais d'abord que notre invité puisse vous expliquer les deux notions qui nous préoccupent dans cette émission, parce que c'est sur ces notions que vous allez réagir. Professeur, nous parlons de l'article 444 au sujet de l'homme chef de ménage, qui implique directement l'autorisation que l'homme doit donner à sa femme quand elle a besoin de travailler. Permettre aux auditeurs de réagir, comment ils peuvent comprendre la notion de l'homme chef de famille, parce que c'est autour de ça qu'ils vont donner leur point de vue.
L'homme chef de ménage.
L'homme chef de ménage.
L'homme chef de ménage. En fait, en droit congolais, pour définir la notion de l'homme chef de ménage, il faut commencer par cerner la notion même de ménage. Mm-hmm. C'est quoi les ménages en droit congolais? En droit congolais, les ménages se définissent comme l'ensemble, couple, homme-femme, les enfants, ces annonces, ainsi que toutes les personnes qui vivent sous le toit conjugal, à condition d'être inscrites sur ce qu'on appelle les livrets de ménage.
De ménage.
Voilà, le ménage. Alors, l'homme chef de ménage, c'est-à-dire, c'est l'homme qui assure la direction du ménage. Aucune décision ne peut être prise qui engage le ménage sans l'aval de l'homme. Voilà.
Voilà. Et automatiquement, cela a de l'influence sur l'article 448, l'autorisation qu'une femme doit avoir quand elle a besoin de travailler.
Oui, la notion de chef de ménage, ce n'est pas seulement par rapport à la femme, mais bien sûr, nous allons insister sur la femme, c'est aussi par rapport à tous ceux qui vivent, sur les toits conjugales, les enfants, et j'en passe. Mais par rapport à la femme, effectivement, la conséquence, c'est notamment l'article 448, la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques qu'elle veut poser.
Voilà, on s'émite là, et on écoutons d'abord Serge. Serge, vous êtes en ligne, bonjour. Serge, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, apparemment, la ligne de Serge a une petite distraction, on revient. On va à Lubumbashi. Irène, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Et nous sommes très heureux de vous avoir en ligne, vous êtes la première dame qui intervient dans cette émission. Nous parlons aujourd'hui de la révision du code de la famille, mais le débat d'aujourd'hui est focalisé d'abord sur un article que nous avons pris, c'est la notion de l'homme chef de ménage. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que comme la société a évolué, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui travaillent, qui prennent la charge de ménage, alors il ne serait pas mieux de parler en termes que l'homme est le chef de ménage, mais plutôt que le ménage soit géré d'une manière collégiale, qu'il n'y ait pas seulement un seul chef qui dirige et qui coordonne tout. Et vous, vous êtes une dame, vous êtes à Lubumbashi. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez de cela, Irène?
Bon, en fait, ceux qui disent que l'homme et la femme doivent diriger, je trouve que ça sera un peu un désordre, même dans une entreprise normale. On ne peut pas se retrouver avec deux chefs. Et j'aime bien qu'il nous arrive à croire qu'il n'est pas possible que l'homme prenne toutes ses décisions seul. Mais comme le professeur l'a dit, il y a des choses qui passent par la suggestion. On suggère et on arrive à obtenir une décision ensemble. C'est dans ce sens-là, je peux dire que c'est une gestion collégiale. Mais parler de deux chefs dans une même maison, je ne suis pas vraiment du tout d'accord parce que ça va aller le perturber parce que les opinions sont toujours différentes, la façon de voir les choses sont toujours différentes. Alors il faut qu'il y ait une personne qui coordonne. On suggère, on propose et on arrive à une décision ensemble, mais qui a été proposée par celui qui a été élu par la Bible, je pense que c'est même précisément la loi qui l'a dit, mais c'est si nous devons rentrer, ou déjà on a dit l'homme et le chef. Moi je crois qu'il peut rester le chef, comme on l'a suggéré, comme on le dit, comme on le propose, mais ce qui est mieux, il ne peut pas prendre les décisions seules. Sans pour autant consulter sa femme.
Voilà. Et quelle est votre réaction par rapport à l'autorisation que vous devez avoir en principe? Si aujourd'hui vous avez besoin de travailler, je donne un exemple, vous devez avoir l'autorisation de votre mari. Comment vous pensez aussi de cela? Faudrait-il modifier? Faudrait-il rester comme ça? Et quel est votre point de vue aussi là-dessus, Irène?
Mais ça peut rester comme ça. C'est juste comme si je veux aller rendre visite à ma mère. Je dis toujours, je vais aller rendre visite à ma mère. Mais je ne trouve pas ça un problème. Il est mon mari, il a un droit sur moi. Et puis ça me donne une certaine valeur là où je pars travailler. Parce que mon mari sait que je travaille quelque part. Et il m'a donné l'autorité, l'autorisation, il accorde ça. Et je trouve que ça ne sert à rien de promulguer là-dessus pour dire non, il faut que la femme travaille sans autorisation de son mari. Ça dénote une légèreté. Là, il n'y aura plus une différence entre une femme célibataire et une femme mariée.
Merci, Irène à Lubumbashi. Les auditeurs des radios qui nous écoutent sont sur 95.8 MHz. Je crois que Gabriel est à Béni, en province du Nord Kivu. Gabriel, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez mis en ligne pendant qu'Irène est en train de parler. Nous parlons de cette notion de chef de ménage. Vous êtes un homme aujourd'hui. Irène pense qu'il faut qu'on reste dans la logique où l'homme est le chef de ménage, mais du moins, cet homme n'a pas le droit de prendre seul des décisions dans un foyer. Il faut qu'il consulte sa femme pour d'y manière concertée avec sa femme. Quel est votre point de vue, Gabriel?
Oui, je suis d'accord avec Irène parce que monsieur le journaliste, si aujourd'hui on dit qu'on gère collégialement le foyer, je pense que ça va donner quelque chose, sauf des désordres. L'homme, lorsqu'il décide, il ne peut pas appliquer ça seul. Il doit d'abord écouter aussi la position de la femme, même les enfants. si aujourd'hui on libéralise les enfants, pour qu'ils fassent appliquer leurs décisions, ce qu'ils pensent, la femme, c'est appliquer les femmes, vous savez qu'à conséquence, en retour, l'homme serait toujours responsable moralement de toutes les situations ou de toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer là où ils vont partir. En tenant compte aussi de notre culture, nous, les Africains en général et les Congolais, vous savez qu'aujourd'hui, si on met égal l'homme et la femme sur le plan de décision, je pense que la parité qu'on est en train de nous expliquer, nous, les Africains, qu'on doit vraiment étudier ça bien avant de serrer ça dans notre culture. Parce que si on commence à insérer ça avec brutalité, nous risquerons d'avoir des difficultés sérieuses dans notre foyer. Alors c'est ce que moi je ne suis pas d'accord. Comme même la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. D'abord on doit respecter ça. Mais ce n'est pas dire que l'homme doit être dictateur en tout. Mais il doit toujours collaborer avec les enfants et avec la femme pour que cela puisse passer. Parce que dans la plupart de nos mariages dans des communes, on signe les communautés universelles des biens, c'est-à-dire c'est le régime qu'on choisit, c'est les communautés universelles des biens. Je ne pense pas que en faisant cela, ça peut pousser l'homme à diriger seul la maison, mais la femme peut aussi contribuer. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui se passe, je condamne aussi. Les gens qui signent des conventions, pêle-mêle, tu sais, comme mes frères avaient dit, que c'est la conséquence des conventions qu'on a signées. Maintenant, ça nous oblige à retoucher nos textes. C'est ça le problème aussi.
Merci, alors, moi, merci Gabriel. Merci Gabriel. Serge, maintenant vous êtes en ligne, vous êtes à Bouya. Bonjour Serge.
Bonjour
Serge, dites-moi un peu, est-ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, si on applique cette notion comme elle s'applique dans le texte juridique de l'homme chef de ménage, c'est là, dites-moi un peu dans la société, que cela a une conséquence négative sur la gestion d'un foyer, par exemple, selon votre entendement, vous êtes abonné.
Merci beaucoup, c'est Thierry. En effet, on voit le point aujourd'hui, si on arrivait à appliquer l'indiqué par rapport à ce projet de loi, si vous voulez, c'est que on arrive vraiment à rédiger en certains articles, notamment l'article 185 du Code de la famille, comme vous le dites. Je pense qu'il pourrait y avoir, bien évidemment, certains problèmes, certaines différences qui pourront être entre les deux époux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, cet article, comme on est en train d'en parler aujourd'hui, il faudrait que ça fasse une autre peine. Hein, et qu'il y ait aussi certaines mesures qui pourraient appeler à ce que nous puissions éviter certaines situations en désastre qui pourraient engendrer par le fait que une d'application de ces articles ne pourrait pas être.
Voilà. Serge, on a un problème de la qualité de votre ligne, hein, mais dis-moi, vous dites que s'il faut revoir cet article, mais il faut aussi penser à des mesures d'accompagnement pour éviter que cela ne puisse provoquer des problèmes dans l'harmonie, hein, et la disposition de l'harmonie dans le ménage, si je vous ai bien suivi, mais malheureusement, votre ligne pose assez de problèmes. Nous avons aussi Pierrette, qui est à Kananga, au Kassai occidental. Pierrette, bonjour.
Bonjour Pierrot.
On parle de l'homme chef de ménage, l'autorisation de l'homme pour que sa femme puisse travailler. Dites-moi un peu, vous êtes une dame, est-ce que vous pensez que ça vous fait mal qu'on dise que l'homme est votre, le mari est chef de ménage? Est-ce que ça vous fait mal dans vos rapports en tant que la femme dans un foyer? Est-ce que ça fait mal?
Oui, un peu oui.
Un peu, alors qu'est-ce que vous pensez de ça?
À mon avis, l'homme et la femme devaient diriger leur ménage de façon collégiale. Parce que lorsqu'on accorde à l'homme le monopole de chef de ménage, c'est comme si on réélevait la femme au même niveau que ses enfants. On a un adulte qui dirige tous les autres enfants de la maison, tous les autres qui sont sous tutelle. À mon avis, l'homme et la femme devraient diriger de façon collégiale le ménage.
Et quand il s'agit d'aller travailler, vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire aussi de ce côté-là?
Personnellement, moi je trouve que l'homme n'a pas ce pouvoir-là de décider si oui ou non sa femme doit aller travailler sans une certaine autorisation. C'est une sorte de discrimination pour moi. C'est vraiment réduire la femme.
Voilà. Mais Pérez, dites-moi un peu, l'article 40 de la Constitution parle de la famille en tant qu'une communauté qui doit être dirigée d'une manière aussi à assurer sa stabilité et son harmonie. Vous ne vous rendez pas compte que s'il arrive, par exemple, que la femme dise que l'homme n'a pas le droit de m'autoriser à aller travailler, cela ne peut pas déstabiliser l'harmonie au sein de la famille, Pérez.
Certes, mais il faudra que eux se mettent d'accord à leur niveau, au niveau du foyer, se mettent d'accord si oui ou non la femme doit travailler ou va-t-elle travailler. Mais il ne faut pas que du côté du travail, qu'on puisse exiger une certaine autorisation. Je crois que la femme est assez adulte, elle sait ce qu'elle fait, elle peut être engagée. Et pour moi, si on doit obliger aux femmes mariées une certaine autorisation et les célibataires sont engagés,
Voilà. Merci Pierre, vous êtes à Kananga. On termine avec Chantal Petitia-Kinterka. Chantal, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Chantal, c'est un homme, hein?
Oui, pardon.
Ah oui, madame, vous êtes en ligne, excusez-moi là que j'ai confondu votre voix. Madame, nous parlons de la révision de quelques articles du Code de la famille, mais aujourd'hui on a voulu juste restreindre notre échange sur l'article 444 autour de la notion de l'homme chef de ménage. Si vous avez suivi depuis le début de l'émission, il y a des avis partagés. Irène Delbombachi pense qu'il faut que l'homme soit considéré en tant que tel, chef de ménage, mais du moins il ne peut pas décider seul sans concertation avec sa femme. Mais Pierrette de Kananga dit ceci, non, bon, là on doit avoir une gestion collégiale, l'homme ne doit pas être considéré comme le chef, sinon il va traiter sa femme comme tous les enfants qui sont dans la maison. Mais les deux hommes, Gabriel Debeni et Serge Devounia, pensent qu'il faut que l'homme garde la responsabilité en tant que chef de ménage, mais du moins qu'il puisse aussi consulter sa femme au lieu d'agir comme un dictateur quand il faut prendre une décision pour la gestion du ménage. On vous écoute, madame. Vous, quel est votre point de vue égard à toutes ces opinions? Et madame Chantal, vous êtes en ligne.
Avec référence à la Constitution, je pense que par rapport à notre Constitution congolaise, il y a déjà un principe de base qui veut que tous les Congolais soient égaux devant la loi. Et je voudrais peut-être commencer par là, en disant que depuis des décennies, toutes les législations du monde essaient de promouvoir l'égalité des sexes, allant ici à l'encontre de la tendance naturelle de la société qui ne réalise pas cette égalité de manière spontanée. Si vous regardez dans les législations européennes, le code par exemple de Napoléon, dont nous avons hérité plus ou moins du fait de nos rapports avec la Belgique, ce code avait aussi commencé par un statut totalement inégalitaire entre les époux. Ça a évolué au fil des années, un petit enfant, vers une suppression de la puissance maritale, une suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée, suppression du devoir d'obéissance, etc. C'est pour dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à RDC n'est que la conséquence logique et la suite logique de ce que les autres ont déjà fait. C'est une réforme qui est importante. C'est une réforme qui, je pense, doit vraiment aboutir à cette notion de suppression, à la suppression de cette notion de chef de famille. Pourquoi? Parce que, à mon avis, dans un couple, on est deux. Les décisions se prennent à deux. Dans un couple, il ne doit pas y avoir un chef et quelqu'un qui est là pour obéir aux ordres du chef. Parce que ce serait vraiment intégrer une conception rétrograde, passéiste et même, je dirais, arriérée par rapport à l'évolution de toutes les législations dans le monde et même des conventions internationales. Donc, pour moi, étant donné que le mariage est un acte accepté de commun accord par les deux personnes majeures, ce mariage-là ne doit pas venir modifier la capacité juridique des époux, ne doit pas venir modifier la façon dont les personnes doivent se comporter l'une vis-à-vis de l'autre alors qu'elles étaient tellement majeures au moment où elles se sont engagées mutuellement dans le mariage.
Voilà. Madame, peut-être une deuxième question pour vous libérer. Mais quelles sont les conséquences aujourd'hui, hein, vous, en tant que femme, quand vous regardez dans la société congolaise, est-ce qu'il y a des conséquences qui découlent du fait que l'homme est considéré comme le souffle des ménages? Est-ce que vous avez des conséquences sur la vie du ménage lui-même ou sur la vie de la famille?
Bon, des conséquences, je dirais que, heureusement, tout est l'année plus très respectée dans la pratique, je pense. Hein? Moi-même, je suis une femme mariée. Je pense que, au point de vue de la pratique générale, peut-être quelques exceptions, dans quelques tribus aussi, par exemple, d'une manière générale, les couples ont justement créé un certain équilibre, du fait, ce qui fait que les conséquences, il n'y en a plus tellement. Ce qui fait que le travail législatif qui est en train de se faire, ce ne serait que peut-être réinscrire dans la loi la pratique quotidienne qui veut que les époux soient totalement égaux dans leur rapport au quotidien.
Merci.
Mais dans la pratique, ce qu'on peut peut-être décrier dans certains ménages, c'est qu'il y a des époux qui ne donnent pas à leurs époux le droit d'exercer une profession. Il y a des femmes qui ne peuvent pas ouvrir un compte sans autorisation de mari. Mais même au niveau de la façon d'élever les enfants, alors que les pères et mères sont tenus de donner chacun son point de vue par rapport à l'éducation des enfants, il y a des couples où on constate qu'il y a une certaine déséquilibre à ce niveau. Donc ce sont des petites choses, mais je crois que ça devient plus ou moins marginal par rapport à l'ensemble des couples, du moins dans les zones urbaines, hein, parce que dans les zones rurales c'est encore autre chose peut-être, mais dans les zones urbaines je pense que d'une manière générale, ce ne serait que finalement inscrire dans la loi la façon dont la société congolaise a évolué, et je pense que vraiment, il n'y a plus tellement de pratiques discriminatoires au sein des couples,
voilà.
En tout cas dans les couples que moi je connais aujourd'hui, et même dans mon propre couple, où j'ai des relations totalement saines, harmonieuses et équilibrées avec mon mari, et je ne vois pas
des problèmes. Voilà. Merci, Madame Chantal. Vous êtes ici à Kinshasa, Pasteur Moutamba et Tagoma. On va d'abord donner la parole à notre invité, le professeur Eddy Monzo, et puis on pourra revenir aux auditeurs après.
Parole aux auditeurs.
Professeur, vous avez suivi les auditeurs, les avis sont partagés, ce n'est que normal. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un problème aussi de la compréhension de ce qu'on appelle chef de ménage au niveau même des textes juridiques? Comment cela a été peut-être vulgarisé et communiqué auprès de maris pour qu'ils comprennent le rôle de chef de ménage? Peut-être que c'est à ce niveau-là que se pose le problème, où les gens pensent que le chef de ménage il devient dictateur pour nous imposer, nous tirer comme ils tirent les enfants dans la maison. Les autres pensent que c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs pour cette première partie d'intervention?
Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un problème de la mauvaise vulgarisation du code de la famille. Non. La loi en soi est mauvaise. À mon avis, personnellement, il suffit de passer en revue les différentes dispositions de ce code pour se rendre compte, effectivement, la notion de chef de ménage, telle que conçue dans notre code de la famille, donne trop de pouvoir au mari. Trop de pouvoir. Je vais passer par les exemples. Il y a notamment Madame Chantal qui l'a dit, s'agissant de l'exercice même de l'autorité parentale. Par définition, l'autorité parentale, c'est cette autorité qu'exerce les deux parents sur les enfants mineurs, par définition. Mais qu'est-ce qui est prévu dans notre code de la famille? Lorsque les deux époux ne sont pas d'accord quant à la direction de la personne ou des biens de leur enfant, c'est la volonté du père qui prime. Ce qui est contradictoire par rapport à l'objectif même de cette notion de l'autorité parentale. Quand vous lisez les différentes dispositions du code de la famille, vous avez notamment les articles 499 et 500, parce qu'on a parlé de la gestion collégiale et même la gestion concurrente, même si on n'a pas prononcé les mots. L'article 499 dit, voilà, pour certains actes, il prévoit ce qu'on appelle la gestion conjointe du ménage, les biens du ménage. 499 du code de la famille, que voilà, moi, législateur, je dis ceci, pour certains actes importants, notamment aliéner, vendre, si vous voulez, le bien du ménage, faire des donations, pour tous ces actes importants, il faut l'accord des deux États. Ça va? Question conjointe. Quand vous lisez l'article 500, l'article qui suit, le même code dit ceci, pour les actes que j'ai cités si haut, lorsqu'ils sont passés par un époux, et que dans les 6 mois qui suivent la passation de ces actes, et si l'autre époux n'a pas émis un avis et contraire, ces actes-là sont considérés comme valides.
Voilà, c'est pour expliquer. C'est-à-dire que nous avons besoin de vendre une parcelle, un exemple plus simple.
Voilà.
L'homme n'a pas le droit de vendre la parcelle sans consulter sa femme. La femme n'a pas
le droit de vendre.
Mais s'il arrive que l'homme a vendu la parcelle,
ça, c'est l'article 500 maintenant.
Et dans les 6 mois, si la femme ne vient pas présenter un acte d'opposition, automatiquement, la
décision de là est valable. Ça engage, vous voyez, un bien portant de la famille qui quitte le ménage parce que ses époux a posé l'acte. Quelle est la conséquence sur le plan des droits? Par rapport notamment à cet article 440 sur l'autorisation maritale, quelle est la conséquence? La femme doit toujours avoir l'autorisation. C'est-à-dire, la femme ne saura pas poser ses actes importants.
Mm-hmm.
L'homme n'a pas besoin d'autorisation maritale, donc il peut poser. La femme, si elle est imprudente, va subir. Et ce qui arrive, nous avons beaucoup de ces cas devant nos cours de président.
Voilà.
Donc moi, je pense que c'est la façon dont notre cause a été conçue,
mm-hmm.
ça va, qui pose problème et appelle à la réforme. Je peux revenir ici cette notion de chef de ménage. Moi, personnellement, je sais, je le dis toujours que le droit ne doit pas s'écarter des réalités sociales.
Mm-hmm.
On ne doit pas, sinon, au risque de tomber sous ce qu'on appelle le mimétisme juridique. Copier ce qui fonctionne mieux en Europe et l'imposer ici, ça posera toujours problème. Le droit doit aussi tenir compte des réalités sociales.
Mm-hmm.
Mais, entre-temps, on ne doit pas, oui, je suis d'accord, je suis pour la notion de chef de ménage, mais telle qu'est conçue dans notre école de la famille, je pense qu'on doit, ça pose problème.
Voilà, merci. Pasteur Moutamba, vous êtes à Goma, au nord de Kivu, Madame Cécile Kiala et Kissé Kintessa et M. Tukulu et Tamatadi. Pasteur Moutamba, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous parlons dans cette émission autour de quelques articles du Code de la famille qu'il faudrait revoir. Mais la notion aujourd'hui qui est sur laquelle nous débattons avec les auditeurs, c'est autour du chef de ménage. D'aucun pense qu'il faudrait une gestion collégiale de ménage plutôt que l'homme soit considéré comme le chef de ménage. Vous, quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'il faut faire pour concilier le point de vue des uns et des autres qui sont intervenus depuis le début de cette émission?
Moi, je vais répondre bibliquement. Dans Éphésiens chapitre 5,
mm-hmm.
au verset 22, donc là, on parle sur la famille chrétienne.
Mm-hmm.
Moi, je vais dire que la famille, toujours, doit appliquer la gestion collégiale, même si l'homme est le chef donc de la famille. Il faut qu'il puisse impliquer son épouse en toutes choses et à n'importe quelle décision qui engage la famille.
Mm-hmm.
Ça, c'est le point de vue. Donc, le fait d'être chef de famille, ça n'exclut pas la position de l'épouse. Donc, bibliquement, moi, je soutiens la gestion collégiale mm-hmm. pour la famille.
Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut, en toute circonstance, qu'il y ait des décisions concertées, plutôt que l'homme puisse agir seul en amont et faire subir le reste du ménage ses décisions.
Oui, bien sûr, parce qu'être chef, ce n'est pas synonyme d'être dictateur, imposateur, non. Mais c'est quelque chose de bien géré. Hein. Donc, le système qui est établi, c'est la vie conjugale.
Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Moutamba. Vous êtes à Goma, au nord de vous, hein, Madame Cécile Kiala, vous êtes en ligne. Bonjour, madame. Madame Cécile, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez participé d'ailleurs à l'atelier qui s'est tenu hein, pour la réflexion autour de la révision possible du code de la famille. Mais nous avons ciblé un peu la notion du chef de ménage. Vous qui avez participé à cet atelier d'ailleurs, dans l'esprit de participants, comment vous comprenez un peu cette notion de chef de ménage et ce qu'il faut faire hein, pour modifier?
Oui, merci. Dans le cadre du projet de réforme du code de la famille, selon le genre, et en vertu du principe de l'égalité entre époux,
mm-hmm.
l'article 444 qui a institué le mari comme étant le chef du ménage a été proposé à l'abrogation parce qu'on considère que les deux époux doivent concourir à la direction aussi bien morale que mm-hmm. matérielle du ménage.
Mm-hmm.
Donc les deux doivent être responsabilisés. organisée par rapport à la gestion du ménage. Donc ce sont les amendements qui a été proposé au niveau de cet atelier de révision pour que les deux époux soient toujours, se mettent toujours d'accord et c'est de toujours qu'il s'agisse également de la gestion de leurs biens et qu'il s'agisse de l'exercice de l'autorité parentale. On a fait privilégier la concertation des époux, l'accord entre les deux époux.
Madame, mais comment est-ce qu'il faudrait mettre aujourd'hui des mesures d'encadrement pour éviter que ça ne soit oublié aussi les réalités sociales et les réalités coutumières et traditionnelles qui se vivent
dans notre société? Oui, vous avez raison. Justement, nous avons quand même prévu des garde-fous pour dire que lorsqu'il y a des accords entre les deux époux, les problèmes ne devraient pas être directement soumis devant les cours des tribunaux. Nous avons proposé un organe consultatif. Nous avons proposé que le conseil des familles soit un organe consultatif qui va essayer de concilier les deux époux et en cas d'échec, si les désaccords subsistent, persistent plutôt entre les deux époux, c'est à ce moment-là qu'ils pourront se référer au tribunal pour pouvoir être y partager. Ça paraît quelque peu à nos réalités locales, à nos réalités traditionnelles. Il y a toujours la famille qui peut intervenir pour être un organe consultatif pour aider les époux à pouvoir régler leurs différends.
Madame, est-ce que vous pensez aussi que la gestion concertée dans la compréhension dans notre société, est-ce qu'elle peut empêcher l'idée de la conception de l'article 40 sur l'harmonie et la stabilité du foyer? Vous pensez que ça peut empêcher dans notre société?
Je crois que l'article 40 de la Constitution qui considère la famille comme la cellule de base de la communauté, c'est-à-dire la petite famille composée du père, de la mère et des enfants. Je crois que cette disposition ne gêne en rien la gestion, la notion de la gestion conjointe du ménage. Parce que je crois que les deux conjoints sont les principaux acteurs qui vont faire en sorte que la famille reste unie, reste stable et qui vont faire en sorte que cette famille puisse, puisse être soudée. Je crois que ça ne gêne en rien l'article 40 et je pense plutôt que ça comporte davantage cette disposition.
Merci Madame Cécile Kiala, vous nous avez appelé des Kinshasa. Nous allons pas loin d'ici, bien sûr, à Matadi, dans la province de Bakongo. Tout court, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi, Madame Cécile, vous avez suivi les uns et les autres autour de cette notion et le partage que nous sommes en train de faire dans cette émission autour de la gestion du ménage, l'autorisation que la femme doit avoir pour aller travailler. Vous êtes à Matadi. Quelle est votre contribution et votre point de vue égard à tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission?
Oui, je commence par une petite observation. Je voudrais faire observer aux auditeurs qui suivent à l'instant qu'il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez de la question que vous avez posée à l'un des auditeurs. Il a dit que sur le plan pratique, nous ne vivons pas de problème. Donc, cette révision-là, je ne sais pas si elle est tombée après un moment. Ça, c'est aux initiateurs, à ceux qui sont en train de faire ce travail, de répondre à ces questions. Parce que telles qui sont en train de mener nos vies dans nos maisons, dans nos familles, ce problème ne se pose pas. Les gens doivent réfléchir pour résoudre le problème qui se pose. Donc, je voudrais parler de la culture africaine et de la religion. En fait, je voudrais stigmatiser, je voudrais condamner le système qui nous anime ces derniers temps de recevabilité de tout, de plagiat, de voir ce qui se passe ailleurs et on les applique directement sans tenir compte de nos réalités, sans tenir compte de notre culture. Quand vous voyez la religion, il est dit que homme aimait votre épouse et femme serait soumise. Et actuellement, vous savez que c'est ce qui se met en pratique dans une famille, il n'y a pas de problème. Donc moi, je suis surpris d'apprendre qu'il y a un groupe de gens qui se réunissent et qui réfléchissent autour de questions qui ne posent pas de problème à l'instant. Ça n'est pas. La responsabilité de tout, le plagiat, ce qui a entraîné, ce qui a maintenu le plagiat, qui a mené la colonisation, la non-colonisation et la mondialisation.
Mmh,
on voilà. a compris les choses
mmh.
parce qu'on a ratifié des accords, parce qu'on a vu ailleurs et on voit les appliquer. Mmh. Ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas ce qui se passe chez nous.
Voilà. Merci beaucoup.
Ailleurs, mmh. On nous a parlé de la femme, de l'autorisation maritime. Elle existe jusqu'à aujourd'hui, je pense.
Mmh.
Pour Dieu, elle n'existe pas. Mais est-ce que vous rendez compte de l'évolution des sociétés et les peuples français? Quelle a été son évolution sur le plan technologique, sur le plan scientifique, pour que petit à petit vienne à se débarrasser de certaines coutumes, de certaines habitudes.
Mmh. Voilà, merci Tukulu, on vous a suivi, vous êtes à Matadi, votre étude fait que vous ne sentez pas vraiment que sur le plan pratique, il y a des problèmes dans le foyer, il faut qu'on puisse revoir tout cela. Et rapidement, avant de donner la parole à l'honorable Vétiva Touma, professeur, vous avez vu, vous voulez juste répondre dans 30 secondes à cette idée.
Oui, effectivement. Je voulais réagir par rapport à la contribution de M. Tukulu du Bas-Congo. Je voulais dire effectivement qu'il y a des problèmes. Ça va, il y a des problèmes parce que nous sommes des chercheurs, des professeurs d'université, de temps en temps, s'il ne le fait pas, nous envoyons des étudiants, nous étudions en cours de cours des tribunaux, effectivement, pour voir si la loi telle qu'est promulguée par le chef de l'État depuis 1987, si cette loi-là, parce qu'on parle du code de la famille, mm-hmm. ne pose pas problème. Effectivement, il y a des problèmes,
mm-hmm.
notamment mm-hmm. par rapport à cette question de l'autorité de mari, chef de ménage. Il y a beaucoup, s'il ne le fait pas, moi je vais apprendre que beaucoup des cas de divorce que nous avons au niveau de nos cours de tribunaux
mm-hmm.
ont comme base cette histoire, cette question de mari chef de ménage.
Mm-hmm.
Qui croit que, voilà, la loi m'a donné tous les pouvoirs, c'est moi qui décide si tu veux pas, tu pars. Et cela crée beaucoup de problèmes. Si lui ne connaît pas assez, parce que les chrétiens, comme il est dit, mais moi je ne l'apprends qu'en tant que
voilà.
chercheur, il y a effectivement beaucoup ceux qui appellent en tout cas des réformes sérieuses.
Voilà. Honorable Vicky Katoumo, vous êtes ici, écoutez ça, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi le débat, le partage, si on peut dire l'échange avec les auditeurs. Hein, c'est autour de la révision du code de la famille, la notion de l'homme chef de ménage. Vous avez suivi l'auditeur de Bas-Congo. Lui pense qu'il n'y a pas tellement de problèmes dans la pratique dans nos sociétés pour qu'on puisse revoir cela. Hein, il a peur que ça soit une copie de ce qui s'est fait ailleurs, sans tenir compte des réalités sociales de notre pays. Quel est votre point de vue sur cette notion, celle qui est aussi avancé par Tukulu de Matadi.
Oui, bon, je n'ai pas partagé le point de vue de M. Tukulu du Bas-Congo, dans ce sens que, d'abord, il a parlé du plagiat, il n'y a pas, ce n'est pas un problème de plagiat là-dessus, c'est un problème de la société, de développement de la société, parce que les femmes congolaises ou la société congolaise ne peut pas rester en marge par rapport à tout ce qui se passe dans le monde.
Mm-hmm.
Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé, dans un monde mondialisé, où nous devons nous mettre au-dessus de nos pratiques traditionnelles. Et donc, aujourd'hui, le code de la famille est à revoir parce qu'aujourd'hui, le code de la famille est en déphasage avec ce qui est dit dans la Constitution.
Mm-hmm.
La Constitution, la nouvelle Constitution, la Constitution de la Troisième République que nous avons adoptée en 2006. Et donc, il faudrait que nous puissions que tous les textes, que toutes les lois soient au même diapason
que la Constitution.
La Constitution.
Mm-hmm.
Et donc, maintenir la femme dans l'ancien État, d'une personnalité secondaire par rapport à son partenaire homme, nous trouvons que c'est vraiment utopique par rapport à la réalité que nous vivons sur le terrain. Aujourd'hui, l'éducation des enfants, c'est fait par les deux, par les conjoints. Et donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas exclure la femme pour que l'homme seul reste maître de la famille, pendant que c'est la femme aussi joue un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants.
Ouais.
Et donc, nous aimerions, je suis en train d'appuyer l'idée de Mme Cécile, dans tout ce qu'il a donné comme exposé, je l'appuie à 100%, il faudrait qu'on puisse aujourd'hui arriver à harmoniser nos textes. Que toutes les lois là qui sont en déphasage avec la Constitution soient réduites pour que l'idée du constituant, de l'article 14 de la Constitution soit prépondérante.
Voilà.
Donc, je n'ai pas oublié son point de vue. Il a parlé du plagiat. Nous n'avons pas imité. Le monde est en train d'évoluer. Nous devons aussi évoluer.
Merci, ma honorable Vicky Katoumo. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous allons prendre les deux derniers auditeurs de la série avant de donner la parole à notre invité. Didier, vous êtes à Lubumbashi, pasteur Pasteur Gaëtan, vous êtes à Béni, on tend déjà vers la dernière ligne droite de la fin de cette émission. Didier, on vous écoute. Quelle est votre contribution par rapport à ces deux préoccupations présentées dans cette émission sur l'homme chef de ménage et aux autorisations qu'il doit donner à sa femme quand il s'agit du travail?
Ok, merci beaucoup pour la parole. Je crois que je soutiens que l'homme reste le chef de la famille, tout en travaillant en collaboration avec la femme, mais en ce qui concerne des décisions importantes, c'est la décision de l'homme qui prend ça, c'est, je soutiens vraiment pour ça. Mais ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que le nouveau code de la famille révisé sera disponible à l'Internet? Et si ça sera ainsi, c'est dans quel site?
Didier, on n'a pas encore adopté un code révisé, c'est juste une réflexion, un groupe... c'est gardé encore top secret parce que ce n'est pas encore discuté au niveau du Parlement, ça doit passer dans le Parlement, être discuté au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on puisse l'adopter et puis être promulgué. Jusqu'alors, c'est une réflexion qu'on ne peut pas mettre, en fait, qui n'est pas encore publique, mais c'est ça le partage, mais au moment opportun, ça sera discuté, adopté, promulgué. S'il le faut. Merci Didier, votre préoccupation c'est qu'il faut une concertation, mais dis-moi, vous pensez qu'il faut que la vie de l'homme prime ainsi qu'il faut faire les grandes décisions. On termine avec Pasteur Gaëtan de Béni. Bonjour Pasteur.
Moi c'est maintenant Didier.
C'est-à-dire qu'il y a eu un renversement, c'est Pasteur Gaëtan de Béni qui est intervenu, maintenant c'est Didier. Didier, vous êtes à Lubumbashi.
Merci beaucoup. Je vous rappelle que je suis aussi étudiant, déjà un droit. Mm-hmm. J'ai terminé l'année passée, j'ai étudié aussi le code de la famille.
Mm.
Vraiment, je ne trouve pas le mal de réviser le code de la famille parce que, selon moi, il n'y a que le mimétisme. Nous copions sévèrement ce qui vient d'autrui. Mm. C'est ce qu'on a fait avec la civilisation congolaise et la civilisation européenne. Il y a une grande différence qu'on ne peut pas comprendre, monsieur le journaliste.
Mm.
Dis-moi ma contribution. En ce qui concerne le punissement de la femme et l'émancipation de la femme, on ne le refuse pas. Mais il faut toujours tenir compte de l'autorité suprême du mari. Le mari reste le chef du ménage. C'est ça que même nous avons étudié. Et là, le code que nous avons étudié, bien qu'il est révisé, voulais-je dire, l'homme et la femme doivent prendre ses décisions ensemble.
Mmh.
S'il y a, par exemple, les désaccords, c'est celle de l'homme qui va primer à sa femme. Je ne trouve pas vraiment le mal. Mais sinon, j'aurais une question à poser à notre invité.
Allez-y rapidement.
Voilà. La question est celle de savoir comment les codes civils congolais, moi, je l'ai toujours considéré comme un instrument et il n'a jamais été utilisé comme il est. Il n'a jamais... Ça, je vous assure. Moi, j'ai fait ça. J'étais dans des barreaux, peut-être des fois là, pour afficher à des audiences, mais je vous dis le code de la femme.
Il n'a jamais été utilisé comme il faut, c'est ça?
Non, je dis ceci, il faudrait qu'il soit appliqué. Sinon, il est en train de tomber en désuétude. Parce que ce code, il est là comme un statut, on ne l'applique jamais.
Merci.
Il n'a jamais été appliqué.
Voilà, merci Didier, vous êtes à Lubumbashi. Merci de votre point de vue. On va donner la parole à notre invité tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Professeur, vous voyez, peut-être la grande difficulté que moi je découvre en écoutant les uns et les autres, hein, c'est au niveau par exemple de la prise des décisions. Vous avez évoqué l'article 500 du code, qui est la vie, je crois que vous avez parlé de la vie de l'homme, parce qu'il y a un auditeur qui dit même s'il y a un tiraillement sur une décision à prendre, mais qu'on puisse finir par respecter la vie de l'homme. Voilà un peu peut-être l'inquiétude, c'est ça, est-ce qu'il faut, quand on discute, on dit... nous devons, par exemple, acheter telle chose dans un foyer, et la femme dit, non, moi, je veux qu'on achète ce qui est rouge, l'homme dit, moi, je veux qu'on achète ce qui est jaune, et à la fin, le docteur dit, mais, si on ne s'entend pas, ça finit par tomber dans ce que l'homme veut, et là, c'est un peu ça, peut-être, j'ai dit que les gens veulent savoir, oui.
Non, la loi ne dit pas précisément ce que vous dites là, mais du moins, dans certaines matières, la loi a tranché, il dit clairement que c'est la volonté de l'homme qui prime. J'ai donné tantôt l'exemple de l'autorité parentale. C'est quand même un peu aberrant. Voilà, l'autorité parentale, en principe, exercée dans l'intérêt de l'enfant.
Mm-hmm.
C'est ça, la finalité de l'autorité, dans l'intérêt de l'enfant.
Mm-hmm.
Et voilà ce qui dit notre code. Lorsque les deux parents ne sont pas d'accord, moi, maman, j'ai dit, voilà, tu dois aller étudier, il est 18h, tu dois aller voir tes cours. Papa dit non, tu peux aller écouter la musique.
Mm-hmm.
C'est la volonté du père qui prime. Ça va? Il y a autant d'incohérences dans notre école.
Et déjà, cette décision ne permet pas aussi la stabilité. La
mais voilà, parce qu'il y en a qui ont soulevé notamment certaines dispositions de la Constitution qui disent qu'il faut la stabilité. Mais voilà un cas concret dans notre code où la loi dit clairement que non, voilà, quand il y a des accords, c'est la volonté du père qui prime. On ne parle même pas de l'intérêt de l'enfant. Mais faut-il pas revoir une telle disposition qui a des liens, bien sûr, avec cet article 444. Il y en a autant. J'ai parlé de l'article 499 et 900. On peut passer en réseau autant d'articles. Vous verrez que cette question de l'autorité ou sinon du mari chef de ménage doit être revue. Je ne partage pas les avis de certains qui sont intervenus disant que non, voilà, le métisme, on copie ce qui se passe ailleurs. Oui, effectivement, on peut y avoir, c'est pour ça que je n'ai pas personnellement lu, je n'ai pas été associé aux travaux de cette commission de réforme. La seule critique est ce que je formulerai, c'est de n'avoir pas pu, je ne sais pas s'ils ont mené des enquêtes de terrain pour arriver à ces travaux-là, mais je pense quand même que le code actuel tel que rédigé depuis les années 70 appelle quand même des réformes. Mon étudiant Didier, qui dit qu'il est étudiant à l'université, je pense qu'il n'a pas, ou sinon il n'a pas bien lu le code de la famille. Le code est appliqué, mais le code est devenu inadapté par rapport à l'évolution de notre société.
Mais le problème de garde-fous qu'il faudrait entourer, c'est cette révision pour éviter que les traditions de gens ne puissent être en contradiction avec la révision. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce qui concerne cet article? Ça aussi, c'est important.
C'est là tous les problèmes. Je pense qu'un des auditeurs a soulevé ces problèmes des conventions que nous ratifions au niveau international. Mm-hmm. Généralement, nous ratifions des conventions juste pour les besoins de prestige, mais dans certains États qui se respectent, avant de ratifier une convention, au besoin, on demande aux techniciens de bien lire le document, mm-hmm. et au besoin, on émet ce qu'on appelle les réserves. Nous ratifions toutes les conventions sans réserve, c'est-à-dire, on ne tient pas compte de nos réalités sociales. Mm-hmm. Ce qui fait que, s'il faut se référer à la Constitution, dès lors que nous avons ratifié ces différentes conventions au niveau international, et dès lors qu'elles ne sont pas en contradiction avec la Constitution, mais elles priment les lois votées par les parlements. Donc, nous sommes obligés maintenant de modifier nos textes en fonction des engagements pris au niveau international.
Voilà, on termine cette émission avec le dernier auditeur, c'est Jean-Claude qui nous appelle des États-Unis d'Amérique. Jean-Claude, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour. Il est tard, je crois que je suis le dernier. Oui, il est 4h du matin aux États-Unis.
Voilà.
Je suis vraiment très intéressé pour ce son. Mm-hmm. En tout cas, je crois que j'ai suivi tous ces auditeurs. Ils sont là, vraiment, les avis sont vraiment partagés. À mon humble avis, je crois que la façon de gérer le ménage, je crois que l'homme et la femme, le mari et la femme, doivent gérer co-religieusement. Leur ménage, quoi. Et je crois que beaucoup de points qui se posent, même lorsque les économies d'un foyer fort, si une femme et l'homme travaillent ensemble, ils peuvent faire des économies. Et je crois que la meilleure façon, c'est qu'il ne faut pas que pendant toujours à l'homme, la femme doit pas demander l'autorisation de son pour aller travailler.
Mmh.
Et je crois que si.
Oui, Jean-Claude, vous donnez l'exemple, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, hein, là où vous êtes dans l'état où vous vivez pour le moment, comment ça s'est fait? Est-ce que l'homme chef de ménage ou c'est une gestion concertée de ménage? La pratique de là où vous êtes, là où vous vivez présentement.
Mais je crois que, bon, on ne va pas copier ce qui se passe ici, mais je crois que la façon qu'on protège d'abord la famille, c'est d'abord les enfants et la femme, parce que lorsque vous amenez vos incomptes, c'est-à-dire la femme amène son chèque, l'homme amène son chèque, et vous gérez conjointement la même. Mais bien, avant de signer, quel que soit le contrat, vraiment d'abord, vous êtes marié, oui. À partir de lui, oui, toutes les choses que vous devez faire, vous devez les faire ensemble.
Mm-hmm.
Alors, les familles qui sont fortes ici, après, aux États-Unis, partout ailleurs en Europe, je crois que l'homme et la femme travaillent ensemble.
Voilà.
Alors, la famille, c'est l'homme et la femme, et puis et les enfants. Mais lorsque j'ai le professeur qui disait, toute personne qui vient sous votre toit, il y a des parents, et tout ça, c'est là où ça se crée des problèmes. Je crois que si on peut trouver un moyen de protéger la famille, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, je crois que ça serait une bonne chose.
Merci, merci Jean-Claude. Vous nous appelez des États-Unis d'Amérique où il est 4h du matin. On rentre ici au studio à Kinshasa pour clôturer cette émission. Professeur, vous avez suivi les uns et les autres. Il est important, il est nécessaire que le code puisse être révisé, l'article en question soit révisé pour concilier le point de vue des uns et des autres depuis le début de cette émission. Quelle est votre intervention finale et aussi qui permet de conclure cette émission?
Voilà, en fait, le temps nous fait défaut, c'est une matière abondante. Peut-être que Madame Cécile, qui est intervenue, qui a pris part à ces travaux, elle a bien dit, je ne sais pas si c'était la seule modification qu'ils ont proposée, je ne pense pas, je pense qu'il y en a beaucoup, parce que il n'y a pas que l'article 444, hein. je n'ai pas eu le temps de m'atteler notamment sur cette question aussi profonde de l'autorisation maritale.
On pourra revenir
en profondeur, vous verrez même que le vœu de l'ancien ministre du Travail qui a proposé la modification de l'ordonnance loi portant code du travail, c'était la suppression de la notion d'autorisation maritale, mais par erreur des techniciens de son cabinet, et qui a été maintenu, je pense que c'était vraiment par erreur, et même nos différentes lois actuellement tendent à supprimer la notion de l'autorisation maritale. Il suffit de voir l'ancien texte qui régissait les statuts des magistrats avec les nouveaux textes, de le rendre compte qu'on tend vers la suppression de cette notion d'autorisation maritale. Le code de la famille...
Mais professeur, est-ce qu'il y a aussi une brèche qu'on ouvre à l'homme pour présenter son opposition?
Mais oui, pourquoi seulement à l'homme? On peut aussi l'ouvrir à la femme. Le droit d'opposition, comme l'a dit notamment Jean-Claude à partir des États-Unis, pourquoi ne pas reconnaître ce même droit aussi à la femme, dès lors que les travaux de l'homme portent préjudice aux intérêts de la famille?
Comme ça, il faut les
faire. Voilà, la femme peut aussi présenter. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut capter peut-être raisonner des légiférenda. La question de l'opposition maritale, tout comme celui du mari chef de ménage, sont des questions sur lesquelles on doit s'atteler pour, en tout cas, nous mettre notamment en phase avec notamment les engagements au niveau international. En même temps, moi, je ne sais pas, je n'ai pas, comme je l'ai dit tantôt, pris part aux travaux de cette commission de réflexion. Je pense que, à mon avis, la notion de chef de ménage devait être maintenue.
Mais
pour le point de certains, il faudrait être maintenu, parce que je pense qu'il faut quand même, dans une maison, dans une famille, qu'il y ait quand même une personne de référence. Sinon, ce sera les désordres.
C'est l'homme garde l'autorité morale.
La qualité de chef de ménage, l'autorité morale, ça va? Ce n'est pas interdit. Même dans la loi. La loi le dit quelque part, quand vous lisez l'article, notamment 445, que les deux époux concourent à la direction morale de la famille, l'homme et la femme. Ça va? Dans nos traditions,
c'est là.
Moi, je voulais ajouter un truc très important. Une seconde, je pense qu'on peut maintenir la notion de mari chef de ménage, en même temps, revoir les dispositions qui donnent trop de pouvoir au mari.
On arrive alors, on termine par là. Il y a Placide des grandes Bretagne qui nous a écrit, honorable Maurice, qui nous ont écrit, où je parle vraiment des temps. On se retrouve demain vendredi. Nous allons parler des congés annuels et tous les autres congés dans les entreprises publiques et privées. Comment ça se passe chez vous pour prendre ces congés? Et soyez nombreux à réagir à pa@radiocapi.net. Marc Chantal Lomba et Nicole Ngaka, je vous dis tous merci et on se retrouve demain.